l'un des plus grands cinéastes nous a quittés, ce jeudi 16 janvier à l'âge de 78 ans. David Lynch, le plus intemporel et énigmatique des metteurs en scène hollywoodiens, rejoint son entrechambre, fait de rayures blanches et noires, sur fond de rideaux rouges, aux côtés de Laura Palmer et autres personnages à la diction inversée. Un réalisateur essentiel dans ma cinéphilie propre, un mélomane expert, musicien lui-même et ancré dans la pop culture, peut-être un peu malgré lui, puisque devenu la référence de millions de publics. En 2021, j'ai pu interviewer l'éminent Thierry Jousse, tout autant passionné et même une connaissance du grand monsieur. Dans ce double épisode que je vous propose de réécouter ce soir, j'avais pu mettre en avant quelques connexions parmi des nombreuses du réalisateur américain avec la musique et le monde pop au sens large. Thierry Jousse avait gentiment confronté ses avis sur les différents extraits. J'ajoute que quelques années plus tard, le cinéaste et critique français m'a gentiment offert un hors-série en avant-première des cahiers du cinéma sur l'œuvre de David Lynch, numéro dont il avait été le rédacteur en chef. Une boucle était bouclée, et définitivement ce jeudi 16 janvier 2025. Merci David, merci Thierry. Bienvenue dans Samplez-moi. Pour ce numéro spécial, nous allons évoquer les travaux du génial réalisateur David Lynch, dont les musiques, et notamment grâce à son acolyte Angelo Badalamenti, traversent la pop culture au sens large, depuis son premier film Eraserhead jusqu'à ses plus récentes productions. Lynch, ses films et la bande-son associée sont, on le verra, une source d'inspiration pour moult artistes, de Moby à Danger Mouse, en passant par les Français d'Odezen et même Marilyn Manson. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thierry Jousse, 5 ans à la tête rédactionnelle des Cahiers du Cinéma. Les pastilles d'Arte Blow Up conjointement à son collègue Luc Lagier m'inspirent, j'ose le dire, à chaque épisode de Samplez-moi. Auteur d'un ouvrage sur le maître Lynch, il est aussi spécialiste de la musique de film, comme le prouve son émission Ciné Tempo sur France Musique. Thierry Jousse, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de revenir avec moi sur les rapports nombreux entre la musique et le touche-à-tout Lynch. Parlons d'abord des emprunts faits aux bandes originales créées par Angelo Badalamenti, Moby pour commencer avec le thème de Laura Palmer, puis Amon Tobin et un extrait de Blue Velvet. Comme l'évoquait Arthur Hage dans une interview pour la Philharmonie de Paris, la musique de Badalamenti a l'apparence d'une certaine banalité, bien que profonde, voire perverse même.
Oui, banalité, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais on va dire un certain classicisme au fond. C'est une musique qui s'inscrit aussi un peu dans des références aux années 50, comme d'ailleurs Blue Velvet, le film lui-même. Et il y a quelque chose en effet qui s'inscrit dans une histoire un peu plus ancienne et un peu plus longue que simplement la musique d'un film d'aujourd'hui ou du moment où il se fait. Donc oui, il y a quelque chose de ça, et en effet, il y a quelque chose de plus pervers ou de plus retors, on va dire même, à l'intérieur de cette musique qui vient toucher sans doute, qui est une des originalités du cinéma de Lynch, c'est-à-dire justement comment on a un deal, je ne sais pas si c'est le mot perversion d'ailleurs, mais enfin disons, comment on a un style, une étrangeté ou quelque chose d'anormal dans, a priori, la banalité du quotidien, ce qui est la base même de Blue Velvet, qui fonctionne entièrement là-dessus, avec l'image de départ très lisse, et puis ensuite la façon dont on complexifie, et ainsi de suite, tout ça. Pour moi, Badalamenti appartient à une part. Enfin, le couple Badalamenti-Lynch appartient à un corpus précis, mais c'est surtout Blue Velvet, Twin Peaks et pour une part Lost Highway, qui est déjà moins marqué par la présence de Badalamenti, parce qu'il y a d'autres intervenants. Il y a Barry Adamson, par exemple, qui est important aussi dans ce film, par exemple. Et il y a une histoire vraie aussi que j'ai tendance à oublier, parce que un peu atypique, où là aussi il y a quand même un travail de Badalamenti très particulier. Non, il y a une osmose évidente entre les deux, il y a vraiment une sorte de l'idée que le compositeur est un peu le prolongement du cinéaste à travers ce qu'il propose comme musique. Badalamenti, je trouve que c'est un musicien qui a effectivement un lien avec ce qu'on pouvait appeler dans le temps le son hollywoodien, mais jusqu'à des gens comme Mancini. Enfin, il y a quelque chose, disons presque amniotique, on pourrait dire musical, dans lequel il baigne, qui quand même est présent. Et finalement, je pense que c'est aussi pour ça que Lynch l'a choisi, parce que Lynch est aussi fasciné par les années 50, par la musique des années 50, alors aussi bien le rock'n'roll, disons des choses voisines du rock'n'roll qu'en effet peut-être une musique plus classique ou plus hollywoodienne. Mais enfin voilà, il s'inscrit dans cette référence au fond fantasmée, réinventée de cette décennie qui est en fait la décennie où David Lynch était enfant. Donc c'est aussi ça qui remonte à la surface de ses films et des musiques de son compositeur.
une scène de Sailor et Lula chantée par Coco Taylor, sur une musique signée Lynch et Badalamenti, bien sûr. De nombreux moments dans la filmographie de Lynch intègrent de la musique diégétique, c'est-à-dire entendue, voire vue par les protagonistes. Alors depuis 77 et son premier film, Lynch ne cesse de déclarer son amour pour cet art.
Oui, il l'a prouvé puisqu'il est devenu lui-même l'auteur de des musiques de ses propres films. Il a publié des albums. Bon, il avait eu une expérience scénique à Paris il y a une vingtaine d'années avec un espèce de groupe qui s'appelait Blue Bob, qui avait visiblement été un traumatisme pour lui et qui ne l'a pas poussé à poursuivre dans cette voie-là, puisque visiblement ça a été très très difficile à vivre malgré tout. Donc bon, mais enfin, je ne sais pas si c'est un musicien génial. Non plus, mais disons qu'il a la volonté comme d'autres, Carpenter, j'en sais rien, enfin il y en a d'autres, hein. Il y a un certain nombre de cinéastes musiciens, ça existe, parce que je crois que chez Lynch, il y a un côté quand même artiste total, enfin qu'un fantasme d'artiste total, peintre, dessinateur, photographe, cinéaste, musicien, concepteur sonore, bon bref, il a un peu toute la palette. Chez lui, donc la musique ne pouvait pas lui échapper, son cinéma de toute façon, même quand c'était pas lui qui faisait la musique, et si ce n'est très musical, en tout cas très sonore. Il y a un univers sonore très marquant qui s'instaure. C'est vraiment le type de cinéaste dont les bandes son peuvent exister presque de façon autonome. Enfin, dans certains, ça dépend des films, hein, mais en tout cas, un film comme Eraserhead, il y a quelque chose de ça, quoi. Il y a l'idée d'une bande son qui pourrait exister en soi. D'ailleurs, il a publié, je crois que la musique de Eraserhead à l'époque a été publiée non pas comme une musique de film, mais justement un peu comme quelque chose qui venait vraiment directement du son du film, quoi. Now my love. Lynch, je comparais un petit peu à Godard, même si ça n'a rien à voir, parce que ce sont des cinéastes complètement différents, mais enfin qui ont un point commun, c'est d'avoir cette maîtrise globale du film et d'avoir ce lien avec le son et la musique. Donc quand Godard utilise une musique, c'est pareil, pour moi je dirais que Godard a un peu inventé le sampling au cinéma. Ça peut aller, enfin, voilà, ça serait un peu plus long à décliner, mais enfin on peut dire, disons-le comme ça de façon un peu rapide, et Lynch a poursuivi ce mouvement d'une manière qui est tout à fait différente, mais voilà, il y a cette même idée qu'un morceau dont on s'approprie, pour un film devient au fond voilà, un peu à soi et devient autre chose que ce qu'il était à la base. Il est transformé par ce passage, par le film. La rencontre avec Badalamenti l'a poussé dans une certaine direction qui correspondait aussi à l'évolution de son cinéma, c'est-à-dire à partir de Blue Velvet, on rentre quand même dans un nouveau chapitre après trois films qui étaient tous des essais plus ou moins réussis, surtout si on pense à Dune, où là d'ailleurs il y a une bande-son qui est pas la meilleure à mon sens des films de Lynch, même s'il y a des choses intéressantes, hein. Il y a Brian Eno par exemple qui intervient dans cette bande-son, mais bon, la musique de Toto n'est en tout cas pour moi pas ce que je préfère. Donc à partir de Blue Velvet, en effet, la rencontre avec Badalamenti le pousse vers d'autres rives et son cinéma prend d'autres formes, c'est-à-dire une forme qui est plus référencée justement au cinéma américain, un peu sur le modèle de ce que je disais tout à l'heure à propos de Badalamenti, c'est-à-dire que ce sont des films qui sont à la fois d'une originalité totale et en même temps qui ont ce lien le plus direct à cette Amérique un peu profonde ou ancienne que Lynch a tendance à chérir d'une certaine façon, enfin de manière ambivalente, hein, évidemment, mais Sailor et Lula serait l'exemple le plus frappant du coup, puisque l'émission s'appelle Samplez-moi, on est presque là dans le sampling visuel aussi, je dirais d'une certaine manière, le lien au rock'n'roll.
خاکستری زیر و بم شهر این مردم زیر زمین بشنویم ولی بشنگیم که شهر داغونه هرکی مایش بیشتره شهر دارونه حیف حیف نرفت تو گوشه کسی چیک چیک خطرات کثیف بارون آروم بارون که کارو میشوره با خون آروم چرا غرب تو لجنم به نگفتی گفتم اینجا پره جا
Donc là, le hip-hop, toujours à la recherche de samples originaux, avec ici le travail du producteur iranien Madiar Agajani, un des apôtres de la musique underground iranienne, ce qui lui a valu effectivement des problèmes, mélangeant traditionnel et sample donc, dans des travaux électroniques et hip-hop, à l'instar de Nino Rota Fellini, Danny Elfman Burton, John Williams Spielberg. Le couple Lynch-Badalamenti est inspiré et effectivement inspirant.
Pour un cinéaste comme Lynch, qui encore une fois a quand même le désir de maîtriser son film, enfin, on pourrait dire que tous les cinéastes ont le désir de maîtriser, mais enfin, il y en a qui l'ont plus que d'autres. On sent que voilà, il s'approprie vraiment la matière de son film. C'est quelque chose, c'est un peu comme. C'est vraiment un artiste dans ce sens-là, d'ailleurs. Au sens où il a un accès direct au matériau de son film, je pense que c'est moins vrai pour d'autres cinéastes qui passent par plus de médiateurs. Ça rassure, je pense, un réalisateur comme ça, et rassuré aussi, à partir du moment où il a trouvé le compositeur qui lui convenait, ce qui était le cas en tout cas des Blue Velvet pour Lynch et Badalamenti, je pense que ça le rassure, ça le met en confiance, ça le met en situation de pouvoir, disons, d'avoir le sentiment que son film ressemble bien à ce qu'il avait en tête, ou en tout cas, même si évidemment le compositeur apporte, j'imagine, des idées. Enfin, je ne connais pas le détail de leur collaboration, mais je peux imaginer qu'il y a un ping-pong, il y a un lien qui n'est pas que. C'est pas que Lynch donne l'ordre à Badalamenti de faire ci ou ça. C'est que je pense que dans la conversation, dans la fluidité qui s'instaure entre eux, il y a quelque chose d'un peu évident qui s'impose chez Badalamenti, par exemple. Donc oui, c'est un duo très fructueux et sans doute un peu différent des duos classiques. C'est-à-dire que au fond, le fait que Lynch ait encore une fois un univers sonore global qui dans lequel la musique est inclue, fait que souvent, bon, c'est un compositeur qui fait la musique du film, point. Là, c'est un peu plus que ça, dans le sens où il faut tenir compte de cette dimension globale du film, de cette dimension sonore, dans laquelle la musique de Badalamenti a une certaine manière la vedette, mais enfin, elle est inclue dans quelque chose de plus vaste.
justement, reparlons de ce thème de Twin Peaks, sans doute le titre le plus emblématique de Badalamenti, et étonnamment repris par le groupe de rap français O2N. Ce thème a été finalement assez vite composé, comme l'explique le compositeur dans une vidéo devenue célèbre. N'est-ce pas ça le secret finalement ? Une apparente simplicité presque enfantine devenant une ritournelle forte imprégnant notre imaginaire.
Moi, je ne pourrais pas mieux dire que vous à ce sujet, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose d'évident dans cette mélodie. Oui, il y a un côté comptine, en effet, il y a quelque chose qui vient un peu de l'enfance, l'adolescence, enfin, c'est quand même aussi lié à cette histoire de jeunes gens dans la ville de Twin Peaks. Donc c'est un mélange là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure pendant le mot perversité, sans doute d'une sorte d'innocence et perversité. Enfin, il y a quelque chose, de toute façon, ça correspond bien à ce qu'on perçoit de la série Twin Peaks, hein, ce mélange. Oui, il y a un côté standard, enfin, au sens du standard de jazz, du standard musical. Dans Twin Peaks, c'est un standard contemporain, ce qui est assez rare, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Surtout, la musique de film, on a produit beaucoup moins à partir d'un certain moment, parce qu'elle n'est plus dans la même logique. En général, on est quand même beaucoup plus ambiante aujourd'hui, beaucoup plus dans une conception du son global. Il y a une mélodie, il y a quelque chose qui s'insinue dans la tête du spectateur, dans la tête du... Et ça a participé sûrement à la fascination que la série a provoquée à l'époque. Il se trouve que, comme je ne suis plus tout à fait un jeune homme, j'ai pu voir, je me souviens avoir vu une grande partie de la première saison, moins la deuxième, mais la première saison, dans l'ordre de sa diffusion initiale sur la 5 de Berlusconi, donc en version française, et qui m'avait assez fasciné, alors qu'à l'époque, j'étais plutôt incertain sur Lynch, je ne savais pas très bien, j'étais pas complètement acquis à Lynch, je flottais selon les films, Blue Velvet m'avait pas entièrement à l'époque convaincu, maintenant beaucoup plus, bien avant les revues, et peut-être que c'est Twin Peaks qui m'a fait basculer d'ailleurs, parce que tout d'un coup, là, j'ai eu le sentiment de quelque chose d'inédit, et puis on n'était pas dans la période de la vogue des séries, donc il y avait quelque chose de quand même de très singulier et de très surprenant là-dedans. Que la musique de Badalamenti, enfin que la chanson, donc le thème musical de Twin Peaks, comme dans des manières un peu à l'ancienne, comme c'était vrai pour d'autres films plus anciens, a participé pleinement à cette fascination-là, enfin, chez moi, mais chez plein d'autres gens. Donc c'est clair, encore une fois, c'est la dimension musicale du cinéma de Lynch, la télé en l'occurrence, mais peu importe, elle s'inscrit de façon extrêmement nette. Encore une fois, la musique fait partie de sa mise en scène, ce qui n'est pas le cas de tous les cinéastes, loin de là. Chez lui, c'est vraiment quelque chose qui est lié. Donc cette ritournelle qui a le côté éthéré aussi, comme ça s'élève, presque, il y avait un petit côté presque religieux là-dedans, parce que c'est aussi une sorte de requiem à Laura Palmer. Il y a la dimension morbide, tout ça est dans la musique. En même temps, ça ne baisse pas, c'est pas quelque chose de démonstratif, ça s'impose avec l'évidence dont vous parliez, dont je parlais. Voilà, c'est le miracle à un moment donné d'un thème, mais souvent les thèmes ont été écrits rapidement, les chansons qui ont été des standards ou ça ont été écrits rapidement. Enfin, c'est le labeur n'est pas forcément le signe de la qualité, c'est l'inspiration à un moment donné, du coup là, faute de mieux, on est obligé d'employer ce mot-là, mais qui tout d'un coup produit cet effet-là.
À dada sur ton string, je glisse sur la voie rapide, tu verras sans tes warnings, comme la route est toute humide. Je suis à fond de cinquième, direction le septième ciel, je franchis la ligne blanche, et demain sur mes hanches.
Parlons maintenant des emprunts faits aux films eux-mêmes. Les bandes-sons des films de Lynch sont aussi des sources d'inspiration prégnantes pour les musiciens de tous bords. Lynch, dès le départ, intégrera des morceaux au sein même de ses films, on en a parlé évidemment, participant à l'histoire, comme cette mythique Radiator Song co-écrite par Lynch lui-même.
La bande-son de Eraserhead, je le disais tout à l'heure, est marquante en elle-même, enfin dans sa totalité. Enfin, ça fait vraiment partie de ce... Moi, j'ai découvert Eraserhead aussi, là encore, à sa sortie, ou en tout cas au moment où il a été montré en France. Bon, c'est un film qui a un statut un peu à part, parce que c'est un film d'étude à la base qui s'est prolongé beaucoup plus que ce qui était prévu. Il a été sorti d'abord confidentiellement, il est devenu une espèce de midnight movie, là, comme on dit, c'est-à-dire un film de... Ça passe aux séances de minuit, puis devenu un film un peu culte. Enfin bon, il est arrivé en France au début des années 80, auréolé d'une réputation déjà assez importante, et avec ce truc qui débarque de nulle part. C'est quand même assez rare de voir le film d'un cinéaste aussi bizarre, dont on se dit qu'on ne sait pas exactement quoi en penser, mais qu'en tout cas il y a quelque chose d'assez inouï qui se passe. C'est très rare. Après, j'ai été plus marqué par la globalité du travail sonore de ce travail. Donc d'ailleurs, il faut citer un personnage important qui a contribué à cette affaire-là, c'est Alan Splett, qui était, je crois, une sorte de monteur son, musicien, enfin qui a en tout cas été très partie prenante de la conception générale de Eraserhead, et qui mérite d'être cité, parce que Lynch est évidemment un côté des murges qui fait bouger ses marionnettes, qui fait qui invente son monde, qui crée sa magie, mais il y a aussi des gens derrière avec lui qui relaient ses désirs ou qui inventent aussi des choses avec lui. Enfin voilà, il y a encore une fois, c'était déjà un premier couple avant même que Badalamenti soit apparu. Ce que je pourrais dire quand même sur, pas spécialement sur Radiator Song, mais sur l'univers sonore de Lynch, notamment de ses premiers films, c'est que je comprends parfaitement que ça ait fasciné les musiciens. C'est-à-dire qu'au fond, il y a aussi quelque chose qui participe aussi d'une évolution de la musique vers quelque chose de plus sonore. C'est à la fois, disons, on va dire, ça se rattache à la fois à toutes les recherches un peu électroacoustiques ou des choses comme ça. Puis ça va vers, en effet, la façon électronique aussi, l'ambiante, des choses comme ça. Enfin bon. Et là encore, je referai peut-être le rapprochement avec Godard. C'est qu'au fond, c'est des réalisateurs qui sont à la fois, qui sont aussi musiciens. Godard, au fond, pour moi, est aussi musicien, même s'il n'a jamais composé le moindre truc, mais à travers justement ce espèce de sampling à lui. C'est des gens qui ont une influence sur la musique, quoi, sur l'évolution de la musique. Ça concerne assez peu de cinéastes dans l'histoire. Encore une fois, c'est pas simplement les compositeurs, c'est les réalisateurs eux-mêmes, cette idée de la chanson, aider Razorhead, quoi. C'est évident qu'il y a une proposition qui va au-delà de ce qu'est la musique du film au sens traditionnel du terme.
I'm looking for a Mr. Frederick Treves, please, Bob.
Well, I'll send for... No! Oh, Mr. Treves, sir,
Yes, I was expecting you. Yes, are you the cab driver?
Yes, sir.
Anyone else with you?
No, sir, just this gentleman.
Thank you for your troubles.
Not at all, sir. My pleasure.
Fin de la première partie dédiée aux musiques de Lynch et leur héritage via les samples avec Thierry Jousse. Suite et fin de l'entretien la semaine prochaine avec Dune, Michael Jackson, Elephant Man, Marilyn Manson et même un point sur David Lynch, musicien. A bientôt.
Will you come with me, please?
Samplez-moi.